Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance, avec une vraie tension persistante entre la Chine et les États-Unis. 37 nouvelles entités économiques chinoises ont rejoint la liste noire commerciale avec laquelle il n'y a pas de contact possible entre la Chine et les États-Unis. L'idée générale américaine étant que dans ces entreprises, il y a des gens qui pratiquent l'espionnage et le vol de données. En tout cas, les relations avec la Chine et la France, il y a eu cette visite du président en début de semaine, ça s'est correctement passé, pas d'avancée particulière. En revanche, avec la Hongrie et la Chine, là, il y a vraiment une volonté d'affirmer une proximité stratégique. Cela a été dit cette semaine à Budapest. Dans la proximité stratégique, cela, bien évidemment, inclut un volet économique qui est tout à fait significatif. Et puis, on peut malgré tout signaler qu'il y a l'Algérie qui a menacé cette semaine de réévaluer son accord de libre-échange avec l'Union européenne, ceci en raison de ce qu'elle appelle être des restrictions commerciales. En tout cas, il en est ainsi perçu par les autorités d'Alger. Le FMI baisse ses prévisions de croissance pour cette année 2024. On pourrait être aux alentours de 2,8 contre 2,9 l'année dernière. On reste toujours, c'est incroyable, on reste toujours sur une économie très impactée par la guerre en Ukraine, très impactée par cette terrible inflation avec laquelle on n'arrive pas à s'en sortir, et c'est toujours un frein aux entreprises. Il y a toujours beaucoup de difficultés pour le monde de l'entreprise à aller chercher de l'investissement, à aller chercher de la dynamique économique, de la relance. Non, l'économie mondiale est toujours, si vous me permettez l'expression, plombée par ce dossier ukrainien. Le FMI que nous évoquions à l'instant a publié un rapport annuel sur le Maroc, ceci dans le cadre de l'article 4 qui est prévu par l'institution pour faire une sorte de point, rappeler les tonalités générales de l'économie marocaine, ses réalisations en termes macroéconomiques. Et puis, c'est en tout cas la consistance de ce dernier rapport faisant état de la résilience économique du Maroc dans un contexte international dont on vient de parler, hein, qui est quand même, somme toute, assez difficile, mais finalement avec des impacts qui sont plutôt moindres que ceux que l'on peut observer dans d'autres pays. Et finalement, un Maroc qui résiste bien, on va en parler avec notre invité cette semaine dans Economia, c'est Zakaria Firano, qui est professeur d'économie. Et Zakaria Firano, d'abord, merci d'être avec nous dans Economia. C'est un rapport important du FMI avec un regard assez précis sur l'économie marocaine.
Sincèrement, très positivement pour le Maroc. L'article 4, qui a fait un peu le dialogue entre les responsables de l'économie marocaine et le FMI, ça tombe chaque année, ça veut dire que ça permet de décrire un peu les perspectives et aussi les réalisations de l'économie marocaine pendant une année écoulée. Donc ça, c'est toujours le rendez-vous au mois d'avril, fin mois avril et début mois mai, pour pouvoir un peu clôturer sur la situation économique marocaine. Ben, le rapport actuel, ou le rapport qui décrit un peu ce qui s'est passé en 2023 jusqu'à avril 2024, est un rapport qui est très positif aujourd'hui pour le Maroc, parce que il a salué tous les efforts qui ont été déployés, que ce soit au niveau des politiques conjoncturelles, mais également des politiques structurelles. Et donc là, juste pour signaler, il y avait une salutation importante par rapport à ce qui a été conduit en termes de politique monétaire. Également, il y avait aussi une réclamation positive par rapport aux actions qui ont été menées par rapport à la politique budgétaire, surtout après les deux grandes crises qu'ont connues le Maroc, à savoir la crise inflationniste de 2022 et également le séisme de l'House qui a secoué un peu les équilibres macroéconomiques. Mais le FMI atteste que normalement toutes les mesures qui ont été mises en place pour contrecarrer, ou je dirais aussi pour réduire les effets négatifs de ces chocs, ont été très positifs, et donc l'économie marocaine a pu garder en stabilité ses équilibres macroéconomiques et surtout les quatre équilibres très importants, à savoir la croissance qui reste toujours positive à des alentours de 3%. Nous avons une inflation qui s'est accalmie Au niveau de l'année 2024, nous sommes dans des perspectives à peu près de moins de 2,9%. Et également, il y a le déficit budgétaire qui a été également salué par le gouvernement parce qu'il s'est réduit au-delà de 4,5%.
Mais donc, globalement... Il y a un mot qui est intéressant. Je trouve qu'il y a un mot qui est intéressant dans ce rapport du FMI, c'est quand il parle des plans d'infrastructures. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Maroc récemment sur cette question des infrastructures. Peut-être nous en rappeler les enjeux.
Ah, très bien. Bon, oui, effectivement, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, dont on peut se saluer de façon très extrême, c'est en fait depuis le début du règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, nous avons un investissement qui s'est accru d'une année à une année à une autre, et on est maintenant à 25 ans du règne de Sa Majesté, notre Auguste souverain. Et réellement, ce qui a été vraiment la grande réalisation, c'est ce que nous avons vu comme réalisation au niveau des infrastructures. Aujourd'hui, si je peux donner un chiffre, et ça a été aussi soulevé par le FMI dans son article 4, mais également dans d'autres rapports actuels, surtout celui de la Banque mondiale de 2021, qui a décrit simplement que l'infrastructure marocaine, aujourd'hui, elle est comparable avec les pays émergents. Ce qui veut dire que, je vais utiliser ici le terme qui est utilisé par la Banque mondiale, c'est une surprise pour toutes les économies mondiales par rapport à ce qui s'est passé au niveau marocain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si je prends par exemple l'infrastructure routière, nous avons plus que 60 000 kilomètres de route au Maroc. Oui. Nous avons plus que 1800 autoroutes au Maroc, 1800 kilomètres, avec si on rajoute les 1500 ou les 1100 entre Tiznit et Darlin, nous avons arrivé à peu près 2900 kilomètres, ce qui est un chiffre énorme qui n'est comparable qu'avec les pays qui sont déjà émergents. Je parle ici de la Malaisie, de l'Indonésie, etc., etc. Et donc là, si je prends aussi l'infrastructure sanitaire, je parle d'eau, d'électricité, un peu d'assainissement, nous sommes à des taux qui sont aux alentours de 92%, 96%. Ce qui veut dire que l'investissement dans l'infrastructure était et toujours est là la grande réalisation de l'économie marocaine. Il ne faut pas oublier que l'investissement qui est octroyé à ce champ d'investissement, ça veut dire l'infrastructure, il est aux alentours à peu près de 50% de l'investissement global. Ça veut dire qu'on est en train de parler aux alentours de plus de 150 milliards de dirhams qui est investi annuellement pour pouvoir mettre en place l'infrastructure. Maintenant, les retombées, comme ça a été indiqué dans le rapport, les retombées sont énormes. Donc nous avons aujourd'hui une grande attractivité de l'investissement direct à l'étranger. Et les dernières statistiques de l'Office d'échange le confirment. Les investissements directs, ils sont en augmentation en flèche. Nous avons également, je dirais, une réduction très importante de la pauvreté. Il ne faut pas oublier que plus vous investissez dans l'infrastructure, plus vous réduisez votre taux de pauvreté et aussi votre vulnérabilité. Donc si je prends les 25 ans qui sont passés, nous sommes passés de 14% comme taux de pauvreté, si je prends le taux de pauvreté monétaire, et vers un taux qui est au voisinage de 2,4% à 3% maximum, ce qui est une grande réalisation et qui est tributaire en particulier à cet investissement colossal en termes d'infrastructure. Et c'est pas uniquement ça, c'est ce qu'il faut attirer l'attention aussi, c'est qu'aujourd'hui l'investissement dans l'infrastructure, il commence à devenir qualitatif et non pas uniquement en termes quantitatifs. Nous avons aujourd'hui des investissements qui rentrent un peu dans les secteurs qui sont à haute valeur ajoutée. Là, je parle des investissements dans les énergies renouvelables. Nous avons Mazen, nous avons plusieurs projets qui sont sur cette question-là. Et nous avons aussi des investissements qui commencent à entrer dans l'infrastructure agricole pour pouvoir la moderniser et l'industrialiser.
Mais justement, dites quand les investissements commencent à rentrer, c'est-à-dire que vous nous parlez d'investissements qui sont étrangers ou vous nous parlez d'exercices budgétaires de l'État marocain qui alloue certains de ces fonds qui sont extraits, tirés des impôts, notamment de la levée d'impôts. Donc ça vient de l'étranger, ces efforts des investissements sont maroco-marocains. Quelle en est la physionomie ?
Ah, très bien. Donc je dirais que c'est tridimensionnel. Donc nous avons plusieurs acteurs qui rentrent aujourd'hui dans l'investissement. Et surtout lorsqu'on parle de l'investissement en infrastructure. Nous avons l'investissement public, il ne faut pas le nier, il reste le premier acteur, l'acteur principal en termes d'investissement. Si je prends par exemple en 2024, nous avons un budget d'investissement qui est à peu près de 350 milliards de dirhams. Donc à peu près 50% va vers les infrastructures et c'est généralement drainé par les établissements, par les entreprises publiques. Et là, je ne vais pas citer de noms, mais vous les connaissez, ils sont à peu près 12 ou 13 entreprises publiques qui font les grands projets d'infrastructures dont j'ai cité quelques-uns tout à l'heure, comme Mazen, comme par exemple l'ONI, ou ce qu'on appelle l'Office national d'électricité, etc. Et donc vous avez ces entreprises-là publiques qui s'accaparent à peu près entre les 110 à 150 milliards de dirhams. soit à peu près le un tiers, ou je dirais jusqu'à la moitié de l'investissement public. Mais il faut rajouter un élément très important, c'est que dans les 10 ans qui sont passés, ça veut dire si je prends de 2013-2014 jusqu'à aujourd'hui, nous avons les acteurs privés qui rentrent en jeu. Nous avons des partenariats publics-privés qui sont établis aujourd'hui en termes d'investissement d'infrastructures. Je donne un titre d'exemple, vous avez le port de Dakhla qui retrouve à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, vous avez le port également de Nadour qui est dans la même longueur d'onde, et vous avez aussi la construction de quelques routes au niveau marocain, que ce soit dans les routes nationales, ou que ce soit dans les autoroutes, oui, qui font rentrer aussi des acteurs privés. Et il y a le troisième acteur dont vous avez parlé, c'est les investissements qui viennent de l'étranger, mais généralement on les retrouve dans ce qu'on appelle l'infrastructure immobilière, ça veut dire dans les infrastructures je dirais de bâtiments et constructions. Bon, ça reste la part la plus importante des IDE, et donc leur contribution reste vraiment colossale et importante par rapport aux investissements. Donc le Maroc, bon, certainement on le sait aujourd'hui que le Maroc, il veut que le secteur public ne soit pas le seul acteur en termes d'investissement, il veut que le secteur privé rentre en jeu, mais je pense que les jaillants et les maillons de force, ils sont en train d'être établis pour qu'on arrive à cet objectif de 2/3 d'investissement privé par rapport à 1/3 d'investissement public. Et cela est tributaire des réformes qui sont mises en route aujourd'hui et qui ont été aussi saluées par l'UFMI dans l'article 4. Je parle surtout de la réforme de la charte d'investissement qui a été saluée. Nous, je parle également de la réforme du code du travail qui est en cours et je pense qu'elle va aboutir finalement, je pense, cette année ou l'année prochaine. Je parle aussi de la réforme en termes de fiscalité et également, le plus important, c'est les corrections qui doivent être menées par rapport au secteur informel qui reste toujours une entrave pour l'économie marocaine et par rapport à la concurrence qui doit s'établir en faveur du consommateur marocain.
Mais dans quelle mesure, aidez-nous à comprendre ce point-là, dans quelle mesure, au-delà du fait que ce soit satisfaisant que le FMI rédige un rapport comme celui-ci, hein, parce que le contenu est qualitatif et il est lucide par rapport à la situation au Maroc. Mais de façon plus générale, pourquoi est-ce important ? Pourquoi est-ce important qu'une instance comme le FMI reconnaisse les efforts qui sont effectués au Maroc ? Pourquoi est-ce important pour le pays ?
Très bien. Bon, c'est une très bonne question. Bon, je crois qu'il faut la regarder de façon, je dirais, à deux dimensions.
Oui.
Une dimension macroéconomique et une dimension microéconomique. Bon, je commencerai par la macroéconomique. Bon, vous savez que le Maroc il fait partie des 283 pays qui sont membres du FMI. Et donc là, c'est être membre du FMI, ça veut dire détenir ce qu'on appelle les DTS, ou ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux. C'est quoi les droits de tirage spéciaux ? Ça veut dire que vous avez le droit d'octroyer des emprunts au niveau international, au niveau du FMI. Et vous avez le droit d'avoir ce qu'on appelle des garanties de la part du FMI si vous voulez sortir à l'international. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que le Maroc, si demain, il veut partir vers un endettement à l'international, il veut partir avoir un endettement, que ce soit au niveau des marchés internationaux, que ce soit des firmes multinationales, des banques internationales, ou même au niveau du FMI, il a besoin de ce qu'on appelle le consentement ou l'aval ou la garantie du FMI. Et donc le FMI, il va octroyer un pays la garantie et l'aval si, dans son état budgétaire, dans l'ensemble des réformes économiques qui sont menées, ils permettent de décrire une situation de stabilité macroéconomique. Et donc, si vous avez cette stabilité macroéconomique, vous avez la capacité de sortir à l'international. Ça veut dire que vous avez cette garantie du FMI. Je pense que le Maroc, il en a utilisé 2 fois. Donc, les lignes de crédit, de précaution, et la ligne dernière, la ligne modulable, ou je dirais la ligne flexible qui a été obtenue par rapport au FMI, ce qui a permis en quelque sorte d'alléger le financement à l'international pour le Maroc. Et donc, l'article 4, lorsqu'il est déployé ou publié par le FMI, et lorsqu'il reconnaît que vous avez une solidité macroéconomique, ça vous permet de jouir d'un certain favoritisme au niveau des emprunts à l'international. Ça, c'est un. Deuxièmement, toujours sur le plan macroéconomique, c'est que vous avez, lorsque le FMI, il atteste, hein, je ne vais pas dire, il revoit en quelque sorte votre politique macroéconomique globale, il est en train de vous donner un certain rating. Ça veut dire que vous allez avoir un certain rating par rapport aux pays qui sont dans la région ou qui sont un peu comparatifs aux pays marocains.
Oui.
Et donc, dans ce sens, si vous avez cette comparaison et si vous êtes bien noté, votre spread à l'international va être réduit. Et donc, si vous voulez sortir à l'international pour avoir un emprunt, vous allez avoir la capacité d'avoir un emprunt avec un taux très réduit à l'international et vous avez un spread qui va décrire une situation de risque très faible.
D'accord.
Ce qui est favorable pour l'économie marocaine. Maintenant, sur le plan microéconomique, donc là, pour le cas du Maroc spécifiquement, avoir un certain consentement de la part du FMI par rapport aux politiques menées, ça permet de conforter le gouvernement par rapport à ce qui se passe au niveau macroéconomique, ça veut dire toutes les décisions qui ont été prises, que ce soit l'année dernière ou l'année d'avant, ou que ce soit aussi dans le plan gouvernemental, ça permet un peu de dire est-ce qu'on est sur la bonne route ou non. Et deuxièmement, ça permet aussi de donner une confiance par rapport aux investisseurs qui sont installés au niveau marocain. Ça veut dire qu'ils croient en la stabilité parce que c'est comme si le FMI a donné une vision d'audit externe par rapport à l'économie marocaine. Et donc, ça permet de stabiliser l'investissement au Maroc et ça permet aussi de donner une confiance par rapport aux perspectives futures de l'économie marocaine.
En fait, on se rend compte que tous les éléments d'information qui sortent du pays, alors c'est vrai pour le Maroc, mais c'est vrai pour tous les pays dans le monde, tous ces éléments, en fait, concourent à créer des flux qui vont nourrir des analyses et sur la base de ces analyses, des engagements, des investissements économiques vont être faits et qui vont aboutir à oui, effectivement, on va délocaliser une entreprise là et oui, effectivement, on va faire ceci, on va faire cela. Maintenant, pour ce qui est des perspectives d'avenir, est-ce qu'il y a des éléments dans ce rapport du FMI qui indique sur quoi les grands chantiers sur lesquels le Maroc doit aujourd'hui travailler pour 2024, 2025, 2026, etc. Quels sont les points sur lesquels le FMI dit sur ce dossier-là, il faut encore travailler. Quels sont-ils ?
Ah, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On dit que le Maroc il est sur la bonne longueur d'onde par rapport au projet, par rapport aux réformes économiques ou par rapport aux politiques économiques. Ça ne veut pas dire que la vie est rose. Il y a des problèmes qui sont vraiment très importants au Maroc. Et donc là, le FMI en a signalé, vous avez le taux de chômage qui devient de plus en plus alarmant. Nous sommes à 13,7%. D'accord ? Ce qui veut dire que pendant plusieurs années, ça veut dire si je prends depuis 2000 jusqu'à à peu près 2019, nous étions à des taux qui étaient inférieurs à 9%. Donc on était à 9, à 8,9, etc. Aujourd'hui, nous avons rajouté quelques 6 points ou 5 points dans le taux de chômage. Ce qui veut dire que ça devient de plus en plus alarmant par rapport à la situation d'employabilité, que ce soit des jeunes, des diplômés ou aussi des gens qui sont dans le monde rural. Et ça, c'est très alarmant pour le Maroc. Et je pense que c'est un défi qui doit être pris en considération parce que ça peut piétiner sur le rythme de croissance marocain sur le moyen et long terme.
Mais de quoi on...
Deuxième élément, oui.
Juste avant qu'on poursuive votre raisonnement, permettez-moi de vous interrompre quelques secondes. Sur cette notion d'emploi, l'enjeu... Il y a l'emploi, d'accord, mais c'est l'emploi avec feuille de salaire, bancarisation, CNSS, etc. Ce n'est pas un job qu'on vous donne comme ça. Il faut vraiment que chaque emploi soit totalement visible d'un point de vue administratif et que l'employé en bénéficie totalement, qu'il en ait les droits et les devoirs. C'est un point qui est important aussi, ça.
Je pense que c'est légitime. Mais maintenant, bon, vous me poussez vers un débat que moi, j'éviterai de rentrer de façon rapide dans cette question-là, mais je vais être plus conçu et bref par rapport à ça. C'est que le problème de l'emploi doit être vu de façon plus globale que le fait de créer un emploi et de le faire, voilà, de recruter quelqu'un. C'est pas le recrutement qui est intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire un vrai débat au niveau marocain par rapport au marché de travail. Ça veut dire la politique du marché de travail qui doit être mise en place au niveau marocain. Vous voyez avec moi, je pense que tous ceux qui nous écoutent maintenant sont d'accord, c'est qu'on parle de tout, mais on ne parle jamais du marché de travail. On ne le regarde même pas dans les médias. Ça veut dire qu'on parle des politiques qui sont liées au prix, on parle des politiques qui sont liées, par exemple, aux politiques, je dirais, macroéconomiques, monétaires, politiques de change, on parle de tout, mais on ne parle jamais du marché d'emploi.
Pourquoi ? Vous pensez que c'est tabou ? Vous pensez qu'on a une...
Je pense qu'il y a un grand débat, et je pense que si je parle de façon... je parle de façon politique économique, je ne parle pas maintenant, si vous voulez, je ne parle pas économiquement uniquement, mais sur le plan de politique économique, normalement, et aussi d'économie politique, le sujet du marché de travail est un sujet qui dépasse largement un gouvernement. C'est un débat qu'il faut, même l'Europe n'arrive pas à rentrer dans ce débat, parce que la question de flexibiliser, de laisser rigide, comment voir l'informel, comment voir le recrutement, quelles sont les restrictions à mettre en place, comment réguler, dont vous avez parlé tout à l'heure, le recrutement, les salaires, la question des contrats et tout ça, c'est des questions qui sont énormes et ça dépasse largement un seul gouvernement. C'est un débat qui doit être national. Et il y a beaucoup d'exemples à l'international qui ont hésité à rentrer dans la polémique du marché de travail parce que ça constitue un sujet très complexe, que ce soit au niveau marocain, que ce soit aussi dans plusieurs pays. Et donc aujourd'hui, je vous pose juste une question. Bon, je vais pas rentrer beaucoup dans les débats parce que ça mérite un très grand débat qui ne se réduit pas à cette intervention. Mais pourquoi l'informel arrive à recruter ? Nous avons 72% des populations actives qui sont sur l'informel au Maroc.
Mais à cause de la fiscalité.
L'informel arrive à attirer je dirais, cette offre d'emploi mmh. et pourquoi le secteur formel n'arrive pas. Et donc, c'est une question très importante. Mmh. Le fait que vous serez dans le chômage, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de revenus. Il faut avoir vraiment cette distinction. Mmh. Il se peut que vous soyez dans l'informel, on n'arrive pas à vous détecter, vous travaillez. Et donc là, la vraie question, c'est que est-ce que nous avons des restrictions sur l'offre et des restrictions sur la demande au niveau du marché de l'emploi ? Mmh. Et ces restrictions, c'est tout un débat. Qu'est-ce que ça veut dire, les restrictions ? Bon, je donne un exemple. Vous voulez recruter quelqu'un, il faut être très flexible dans son recrutement. Pourquoi vous allez mettre des entraves qui empêchent les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, de recruter des gens de façon formelle ? Ils préfèrent aller vers l'informel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des restrictions. Et donc là, nous, on sait très très bien que lorsque vous touchez les restrictions de l'offre ou de la demande, ça piétine sur un peu l'équilibre sur le marché. Et donc, pour vous dire simplement que la question de l'emploi, je ne vais pas entrer plus dans les détails, pour la question de l'emploi, la question de marché de travail, c'est un sujet qui doit être ouvert de façon sérieuse au niveau marocain pour pouvoir un peu discuter sur la problématique de l'emploi. Regardez l'exemple des États-Unis. Vous savez, les États-Unis, ils ont une capacité de gérer le taux de chômage de façon très efficace. Ils peuvent, dans 2 ans, 3 ans, réduire un taux de chômage de 9 jusqu'à 6 ou 4 %. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une flexibilité du marché de l'emploi.
Mais ils ont absolument... Oui, mais ils ont... regardez aussi le nombre d'Américains qui sont obligés d'avoir 2 ou 3 petits travails pour pouvoir boucler les fins de mois. Et les salaires sont... le salaire minimum aux États-Unis n'est pas augmenté depuis longtemps. Malgré tout, ça marche très bien pour une poignée, mais c'est un peu plus difficile pour la masse.
Bien, bon, je ne dis pas qu'il faut copier le modèle américain. Je dis qu'il faut vraiment étudier. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle qui soit répliqué dans un autre pays. Je ne dis pas ça. Mais je dis que la rapidité de réguler le taux de chômage dans des économies, pas uniquement aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays, ça permet de voir qu'on peut réduire le taux de chômage en ayant des politiques plus adaptées à le contexte où nous sommes. Oui. Et donc là, je reviens à votre question initiale, c'est que le bas blesse dans l'économie marocaine aujourd'hui, c'est le taux de chômage. Pourquoi ? Parce que oui, nous avons de l'infrastructure, nous avons de la croissance, nous avons un taux d'inflation qui est maîtrisé, nous avons, je dirais, les prémices d'émergence, nous allons rentrer dans quelques années dans les pays émergents à travers l'augmentation de notre produit intérieur brut, mais il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des externalités négatives à cause de ce taux de chômage, qui va laisser des populations aux précarités par rapport à la croissance.
Oui, tout à fait. Et aussi, il y a un point qui est vraiment intéressant dans ces immenses chantiers que le Maroc doit relever, c'est la transition technique. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de passer d'une ère industrielle issue, héritée du XXe siècle, l'ère de la machine-outil, l'ère de la puissance sidérurgique et autres. Et là, on est en train de rentrer dans des problématiques d'intelligence artificielle, d'autres technologies, de gestion des entreprises qui sont totalement différente. On ne gère pas une start-up comme on gère, une fabrication d'avions, par exemple. C'est totalement différent. Et là aussi, le Maroc, il y a un virage. Enfin, c'est un virage qui est pour tout le monde. Mais il va falloir réussir à le passer, celui-là. Il est important.
Bon, tout à fait. Bon, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on doit rentrer dans l'ère industrielle nouvelle. Ça veut dire, ici, on n'arrive pas à faire la mutation technologique, ça ne permettra pas d'avoir une concurrenciabilité au niveau international. Oui. Donc la compétitivité, moi je pense ici, vous me ramenez vers le deuxième problème que je voulais citer tout à l'heure, c'est le problème de la balance des paiements. Et donc là, pour résoudre la balance des paiements aujourd'hui, surtout la balance commerciale des biens et pas des services, nous sommes vraiment excédentaires en matière de services, ce qui veut dire que nous avons un capital humain très important, mais en matière de biens, nous sommes toujours déficitaires dans le commerce international parce que nous n'avons pas ce degré de compétitivité qui est très élevé. Maintenant, si on veut percer dans cette compétitivité et avoir une croissance qui génère une plus grande valeur ajoutée, il faut qu'on rentre dans la nouvelle ère de technologie de quatrième génération. Maintenant, comment faire ? Moi, je pense qu'il y a une seule solution. Mon cher, il n'y en a pas deux. Premièrement, il faut que la recherche et développement se développe au Maroc. Avec un tel budget de recherche et développement qui ne dépasse pas les 0,4%, on ne pourra pas concurrencer au niveau international. Deux. Si on veut faire de la conscience, si on veut développer technologiquement le Maroc, il faut que la recherche et développement devienne un bien public. Qu'est-ce que ça veut dire un bien public ? Ça veut dire qu'il faut que l'investissement public rentre de façon massive dans la recherche et développement. Et donc, si on n'arrive pas à avoir cette taille d'investissement qui considère que la recherche et développement est un bien public, on ne pourra pas concurrencer aussi au niveau technologique. Troisième élément, il faut que les acteurs privés aussi deviennent de plus en plus actifs en matière de recherche et développement. Aujourd'hui, si vous regardez la centrale des bilans, les bilans des entreprises, vous allez trouver que dans les immobilisations en non-valeur, là on trouve les immobilisations incorporelles, là on trouve ce qu'on appelle la recherche et développement, vous allez trouver zéro investissement, je pense, dans 99% des entreprises. Et automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secteur privé ou le tissu privé au Maroc ne s'intéresse pas à ce qu'on appelle la recherche et développement. Et donc là, si on veut y aller, j'ai dit ces trois solutions. Activer le financement de la recherche et du développement, et ça, ça ne peut se faire que dans les instances de recherche et surtout à travers les universités. Deuxièmement, il faut que ça devienne un bien public, c'est-à-dire comme tous les biens publics où l'État, elle casque de l'argent pour pouvoir le rendre accessible aux citoyens, comme l'électricité, comme l'eau, etc. Et troisièmement, il faut qu'il y ait un certain patriotisme de la recherche par rapport aux investissements privés ou par rapport aux entreprises privées. Il faut qu'il y ait cette logique, comme les États-Unis. Vous trouvez dans les États-Unis, dans toutes les entreprises, ils sont associés avec les universités, ils cherchent à faire ce qu'on appelle des start-up, ils cherchent vraiment à innover, etc., etc. Et ça permet de, je dirais, de faire sortir cette action innovatrice en matière technologique. Aujourd'hui, si je reviens maintenant au rapport international, le Maroc, il est dans le cran 1 en termes technologiques. Les pays qui sont développés, là, je parle de la Chine, je parle
de la France, de l'Europe,
des États-Unis, je parle aussi du Canada, etc. Ils sont au niveau 3. C'est-à-dire que nous avons un chemin long pour pouvoir le faire. Maintenant, même si je veux, si vous voulez, je veux comparer les États-Unis avec la Chine, vous avez une comparaison énorme. Les États-Unis dépassent largement la Chine en termes technologie. Et donc, pour nous, le Maroc, nous sommes toujours au niveau 1 par rapport à la technologie, de classement technologie. Si on veut arriver au niveau 3, il faut qu'on casque massivement dans la recherche et développement, et c'est fait par plusieurs pays. Vous avez des pays qui dépassent 4% de leur PIB en termes d'investissement dans la recherche et développement, et ce qui a permis de conduire à des fruits très importants. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pays où vous avez les petites startups, c'est elles qui conduisent les réformes au niveau international, et surtout dans le monde aéronautique et dans le monde des grands calculateurs.
Merci Zakaria Firano, merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications à ce rapport du FMI. On reste dans notre région, Maghreb, avec la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui a eu l'occasion de se rendre en Libye cette semaine. On est toujours dans cette dynamique de ce que l'on appelle à Rome le plan Mattei, qui vise à multiplier les échanges économiques et politiques entre l'Italie et l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique du Nord et la Libye, puisque la Libye est un pays qui a été colonisé par l'Italie. Au cours de cette visite, l'occasion a été donnée de faire le point sur ce qui avait été convenu lors de la précédente visite de Meloni. C'était en janvier 2023, et à cette occasion-là, il y avait un accord gazier qui avait été conclu. Alors, on en attendait beaucoup, mais peut-être beaucoup trop d'ailleurs. On va entendre les explications, le bilan sur cet accord gazier avec Alberto Toscano, qui est docteur en sciences politiques à l'Université de Milan.
Le bilan n'est pas exaltant sur le plan concret de la dimension des fournitures que l'Italie a reçues de la Libye, mais c'est un premier pas vers un avenir qui deviendra effectivement un tournant fondamental pour les fournitures de gaz à l'Italie et à l'Europe tout entière, dans l'hypothèse d'une réelle stabilisation de la Libye, qui passe par la fin de cette guerre civile et de cette influence de l'étranger en Libye, et qui empêche la véritable pacification et le retour à l'unité de ce pays. Donc, pour l'instant, c'est plus une véritable perspective qu'une réalité, mais à l'avenir, Giorgia Meloni dit que l'Italie peut devenir la porte gazière de l'Europe. Et la porte gazière de l'Europe, grâce aux réserves libyennes et aussi d'autres pays de l'Afrique du Nord.
Merci beaucoup Alberto Toscano pour cet éclairage. Voilà, c'est sur ces mots, sur vos mots, que s'achève ainsi cette nouvelle mouture de Economia. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.